Molly Brandt. Molly Brandt, également connue sous le nom de Degonwadonti, signifiant « Nombreux sont mes opposants » en Mohawk, est la sœur de Joseph Brandt. Elle joue un rôle décisif auprès des Mohawks durant la guerre d'indépendance des Américains dans le but d'assurer la prospérité et la pérennité du patrimoine de Catalaki. Molly et son frère grandissent avec leur mère et leur beau-père, Nicholas Brandt. Dans la tradition iroquoise, les noms étaient matrilinéaires. L'identité du père biologique est donc discutable. Ce sont les matrones, clans de femmes, qui détiennent le pouvoir de décision dans les tribus iroquoises. Elles sont responsables de la production et de la gestion des récoltes ainsi que de la viande chassée par les hommes. Les matrones ont également la lourde tâche d'élire les chefs et de s'exprimer sur tous les problèmes économiques et politiques pouvant survenir. Molly Brandt, destinée à devenir une matrone, est élevée selon les traditions iroquoises. Souvent accompagnée de ses aînés, durant ses voyages politiques, Molly Brandt devient une experte des affaires indiennes, mais également européennes. Cela ne fait pas seulement la représentante idéale de sa collectivité coloniale, mais celle de l'ensemble de la communauté indienne. Vers 1759, Molly épouse le superintendant aux affaires indiennes, un proche de son beau-père, Sir William Johnson, un non-indien. Puisque l'Église d'Angleterre refuse de reconnaître le mariage, suivant les rites traditionnels indiens, elle vivra avec lui au Johnson Hall à New York de 1763 à 1774, qualifiée de femme de ménage. Ce sont les yeux noirs pétillants de Molly et ses longs cheveux tressés, couleur d'ébène, qui charma Johnson. Dans le même temps, ce dernier est empreint d'une autre femme, Catherine Weisenberg, une Allemande, mère de ses trois enfants, travaillait pour lui. Elle meurt en 1759. Cette même année, Molly donne naissance au premier de huit enfants, qui survivèrent leur propre enfance qu'elle aura avec Johnson. À cette époque, avoir des enfants de plusieurs femmes était acceptable dans la mesure où vous pouviez subvenir à leurs besoins. Bien que Molly soit considérée comme la femme de ménage, elle ne s'occupe que de très peu des tâches ménagères, elle préfère assumer les responsabilités d'organiser les différentes activités sociales prenant place au Johnson Hall. Elle accueille les colons et les Indiens avec la même hospitalité. Le juge Thomas Jones décrit l'atmosphère de la maison comme agréable et conviviale. Après le petit-déjeuner, tandis que Sir William était à ses affaires, ses invités pouvaient se divertir à leur guise. Certains sortaient, certains partaient chasser, d'autres pêchaient, certains allaient flâner en ville, pendant que d'autres jouaient aux cartes, au backgammon, au billard et même aux jeux de quilles. Nous occupions ainsi nos journées jusqu'à 16 heures, à laquelle on servait le dîner. Sir William, en plus de sa famille, avait rarement moins de 10 invités. Cela pouvait aller jusqu'à 30. Tout était le bienvenu. Tout le monde s'assied ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Chaque invité pouvait choisir ce qu'il voulait et boire à la volonté. La tablée, ou de moins une partie, terminait rarement les festivités avant 3 heures du matin. Tout incluant Sir William lui-même pouvait partir à leur guise, il n'y a aucune retenue. L'accueil chaleureux est sincère de Molly. Envers les visiteurs de Johnson Hall, lui confère une position prédominante auprès du peuple Mohawk. Son style de vie est bien loin de celui des Autochtones perçus comme primitifs et inférieurs. En réalité, Molly agit plus en matrone dans la maison en participant activement aux affaires politiques et sociales ainsi qu'aux tâches quotidiennes du ministère indien lorsque Johnson est absent. Sir William Johnson, décédé en 1774, Molly fuit alors New York vers le Canada, accompagnée des enfants et de quelques loyalistes. Elle réside d'abord sur l'île Carleton, puis à Cataraqui, dans une maison bâtie pour elle reconnaissance pour ses qualités de meneur d'hommes et son indéfectible loyauté envers les Britanniques, malgré son immersion totale dans la culture européenne, Monet tient à porter les habits traditionnels iroquois et à rester connecté à son patrimoine indien. Une ségrégation stricte se développe peu après la guerre entre les communautés européennes et iroquoises à Cataraqui. Des moqueries sur les habits traditionnels autochtones, chemises lacées, pantalons serrés et mocassins, que portaient les Indiens Mohawks étaient lancées, particulièrement aux femmes, dans le but de les rabaisser. La fierté culturelle de Monet en son dévouement à préserver la tradition reste intacte, tandis que son frère Joseph Brant encourage son peuple à l'acculturation vers la culture européenne autant qu'un sens propre que figuré. Le désir indéfectible de Monet à rester contre l'assimilation était compréhensible. Les fermes Mohawks avaient un pouvoir économique et politique à perdre avec la disparition du rôle de matrone, rôle reconnu et influence près de la tribu Mohawk. Les filles de Molly et Johnson, tous mariés à l'autre société, leur mari étant respecté comme docteur et capitaine réputé, suivent l'exemple de Joseph Brant en adoptant les manières et arborant les robes de leur égale européenne. Un incident en particulier accentua leur désir de conversion. Lorsqu'un jour, vêtues de leur robe traditionnelle Mohawk, elles furent agressées verbalement avec des remarques et des insinuations déplacées par de jeunes officiers européens. Plus tard dans la soirée, elles recroisent ces mêmes hommes lorsque d'une cérémonie formelle, habillés d'élégantes robes de bal. Les officiers présentèrent leurs excuses pour leur comportement désobligeant et les invitent à danser, dans l'espoir de se racheter. Les sœurs refusèrent et quittèrent la réception avec un sentiment d'humiliation et de colère. Cet épisode isolé démontrait bien la déconnexion entre les deux cultures. Même si l'assimilation d'une autre culture n'était pas le premier désir des femmes Mohawks, il fut évident que c'était la seule façon d'être considérées comme des personnes éduquées et pouvoir accéder au plus haut échelon de l'échelle sociale où la culture européenne dominait. Molly Brant, quant à elle, trouve un moyen de s'épanouir entre les deux cultures. Elle reste fidèle à son patrimoine Mohawk tout en gagnant le respect et la reconnaissance de la communauté européenne. Elle fut un véritable chef et une source inépuisable de soutien, de force et d'encouragement tant pour les Mohawks que les Européens. Malgré les épreuves que les Autochtones rencontrèrent dans le passé et celles qu'ils affrontent toujours aujourd'hui, Monet aura joué un rôle prédominant dans l'avancée de son peuple et aura montré la voie à ses successeurs jusqu'à son décès en 1807.